Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, la Commission de la condition de la femme a tenu sa réunion d'ouverture à New York. 25 ans après la conférence historique de Beijing sur les femmes, l'ONU tire un bilan mitigé des avancées pour les filles et les femmes. Un expert de l'ONU appelle la Corée du Nord à autoriser un accès sans entrave dans le cadre de l'épidémie du coronavirus. Et en dossier, une responsable d'ONU SIDA explique comment les fortes inégalités entre les hommes et les femmes continuent d'être la cause de la vulnérabilité des femmes face au VIH. La commission de la condition de la femme a tenu sa réunion d'ouverture au siège de l'ONU à New York. Le reste des travaux de cette commission devait durer pendant 11 jours, mais ont été reportés en raison de l'épidémie de coronavirus. À l'ouverture de la session, le chef de l'ONU a appelé à concrétiser les engagements pris lors de la conférence mondiale de Beijing il y a 25 ans. Pascal Sim nous en dit plus.
À l'ouverture de la 64e commission de la condition de la femme, Antonio Guterres a rappelé que l'égalité des sexes est une question de justice et de pouvoir. Nous vivons dans un monde dominé par les hommes, avec une culture dominée par les hommes, et nous avons fait ainsi depuis des millénaires. Et cela doit tout simplement changer, a dit le secrétaire général de l'ONU. 25 ans après la conférence mondiale sur les femmes de Beijing, Antonio Guterres a appelé les États à accélérer la mise en œuvre du programme d'action décidé à l'époque pour réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes partout dans le monde. Mais 25 ans après Beijing, les femmes sont toujours sous-représentées dans les parlements, les inégalités de salaire hommes-femmes persistent, certains États font un bond en arrière en matière de politique de lutte contre les violences faites aux femmes, et la santé sexuelle et reproductive est loin d'être universelle. Le chef de l'ONU a appelé à construire des alliances et à rester mobilisé pour les droits des femmes, soulignant que le forum Génération Égalité, organisé cette année, sera l'occasion d'obtenir des résultats concrets en matière d'égalité des sexes.
25 ans après la conférence historique de Beijing sur les femmes, l'ONU tire un bilan mitigé des avancées pour les filles et les femmes. Certes, depuis 10 ans, les filles sont plus susceptibles de fréquenter l'enseignement secondaire que les garçons. Toutefois, elles sont partout confrontées à des risques de violence, en ligne, à l'école, à la maison et au sein de leur communauté. Des violences dont elles gardent des séquelles physiques et psychologiques et sociales et dont elles ne parlent pas. Le détail avec Prerna Banati, conseillère régionale de l'UNICEF en matière de développement d'adolescence et de genre à Dakar.
Une fille sur 20 âgée de 15 à 19 ans, soit environ 13 millions, a été violée au cours de sa vie. Une fille sur 4 a récemment subi des violences de la part d'un partenaire et peu d'entre elles demandent de l'aide. L'acceptation sociale de la violence sexuelle et de d'autres formes de violence à l'égard des femmes et des filles est omniprésente, même chez les jeunes. Et au niveau mondial, plus d'un tiers des filles et des garçons justifient le fait de battre leur femme pour une raison quelconque. C'est juste inacceptable. Dans la région de l'Afrique occidentale et centrale, près de 10% des adolescents âgés entre 15 et 19 ans ont eu des rapports sexuels forcés. Les filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre deviennent particulièrement vulnérables aux rapports sexuels forcés après l'âge de 10 ans. Et environ 50% des enfants entre 15 et 19 ans qui ont déjà été mariés et ont subi des violences sexuelles ou physiques n'en ont jamais parlé à personne.
Face à l'épidémie de coronavirus, le rapporteur spécial sur les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée a demandé à Pyongyang d'autoriser un accès sans entrave à l'échelle nationale afin que les organisations d'aide puissent aider en cas de Covid-19 dans ce pays. Thomas Orea Quintana a fait remarquer que même si la RPDC n'a confirmé pour le moment aucun cas d'infection au Covid-19, une infection largement répandue entraînerait de graves conséquences pour la population, le pays ne disposant que d'installations médicales limitées. On écoute M. Quintana.
Comme le chef suprême du pays l'a récemment reconnu, une infection largement répandue en République populaire et démocratique de Corée entraînerait de graves conséquences pour la population. Or, le pays ne dispose que d'installations médicales limitées, les hôpitaux et autres structures sanitaires manquent d'électricité, de médicaments, des services d'assainissement et d'eau. La plupart des besoins les plus critiques de la RPDC en matière de soins de santé sont fournis par des ONG internationales. Le gouvernement nord-coréen devrait permettre un accès libre et sans entrave aux experts médicaux et aux acteurs humanitaires, mais aussi à les restrictions d'accès à l'information, les mesures visant à contenir et à combattre la propagation de la COVID-19, telles que le confinement et les quarantaines, ainsi que le traitement des patients, devraient être mises en œuvre dans le strict respect des normes relatives aux droits de l'homme. La priorité pour le gouvernement est maintenant d'allouer des ressources budgétaires à la santé et de mettre de côté les autres activités non essentielles. Davantage d'isolement du pays n'est pas la solution. La communauté internationale doit réagir en conséquence et offrir une assistance médicale et scientifique.
Les fortes inégalités entre les hommes et les femmes continuent d'être la cause de la vulnérabilité des femmes face au VIH. C'est ce qu'indique un nouveau rapport d'ONU-SIDA publié à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Près de 40 ans après le début de la riposte à l'épidémie, le sida demeure une des principales causes de mortalité chez les femmes, en particulier celles entre 15 à 49 ans. Pour en savoir plus, Florence Westgaard a joint Mianko Ramarosson. Elle est conseillère en droits humains et lois à ONU-SIDA.
Sur la proportion des personnes qui meurent du VIH, il y a plus de femmes qui meurent du VIH, bien qu'elles soient celles qui aient accès aux antirétroviraux les premières. Et en fait, un chiffre plus marquant encore que celui des décès, c'est le fait qu'il y a 6000 adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans qui acquièrent le VIH chaque semaine dans le monde.
Et donc, ceci nous renvoie, je pense, aux inégalités et aux injustices auxquelles sont confrontées les femmes et les filles. Donc, quelles sont justement ces inégalités et quelles sont les raisons justement de ces chiffres aussi ?
Les questions de capacité des femmes et des jeunes filles à avoir contrôle sur leur santé sexuelle et reproductive est un énorme souci. Le fait de l'inégalité entre hommes et femmes en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à des opportunités économiques, en fait, il en résulte que les femmes et les jeunes filles se retrouvent dans des situations où elles sont obligées de s'exposer à des situations où elles sont plus exposées au VIH pour pouvoir survivre et pouvoir suppléer à leurs besoins. Et il y a aussi l'aspect de la perception de la masculinité qui est souvent dangereuse en fait pour les femmes et qui affecte la capacité des femmes à contrôler leur santé elles-mêmes. Et puis l'aspect de l'existence de lois en fait qui criminalisent les femmes, qui les empêchent d'avoir accès à des services qui leur permettraient de mieux contrôler leur vulnérabilité au VIH. Et cette inégalité en fait, c'est à travers tous les pays, il n'y a pas véritablement de pays en particulier qui est problématique. Il en résulte que, quelle que soit en fait la nature de l'épidémie du VIH dans les pays, les femmes, qu'elles soient des femmes transgenres ou les femmes qui s'injectent de la drogue ou les travailleuses du sexe, sont plus exposées au VIH que les hommes.
Et comment peut-on justement réduire ou éradiquer ces inégalités entre les hommes et les femmes ?
Oui, il y a des changements au niveau structurel qui peuvent être faits, mais aussi au niveau programmatique. Alors au niveau structurel, par exemple, des lois peuvent être réformées pour assurer une meilleure protection des femmes et des jeunes filles, pour leur permettre de mieux prendre des décisions informées par rapport à leur santé, et aussi des lois pour lever des pratiques punitives à leur égard concernant leur sexualité, leur autonomie et aussi leur contrôle de leur santé. Et aussi, il est très important, en fait, du point de vue programmatique, d'assurer, par exemple, l'éducation sexuelle complète en vue de la prévention du VIH. Et aussi, bien sûr, pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive, mettre en place des programmes complets pour prévenir les grossesses non désirées. Un autre aspect également, c'est mettre en place des mesures, que ce soit par le biais de lois ou de politiques, ou par le biais de l'éducation de la population et aussi des jeunes hommes, des jeunes femmes, pour mettre fin à la violence sexiste. Et pour que tout ça soit possible, inviter les États et les gouvernements à assurer des investissements suffisants en fait dans ce genre de programme et s'assurer que les femmes et les jeunes filles aient accès à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité et aussi que ce soit des services qui soient à leur portée autant économique que géographique.
Oui, et le rapport aussi parle de la pleine participation des femmes dans les décisions touchant aux programmes liés au VIH. Est-ce que justement ONU-SIDA met des programmes où vraiment les femmes participent à ce genre de prise de décision ?
Oui, tout à fait. La participation en fait des personnes doivent vraiment faire partie de la conception des programmes mis en œuvre, mais aussi le suivi pour s'assurer que ces programmes non seulement répondent effectivement à leurs besoins, mais aussi qu'il n'y ait pas des obstacles non voulus, alors que la mise en œuvre de ces programmes, en fait, résulte en des conséquences qui n'étaient pas anticipées. Et en fait, dans la manière dont l'ONU-SIDA opère, il est très important de faire en sorte qu'il ne s'agit pas juste de bénéficiaires passifs de programmes, mais effectivement de partenaires dans la mise en œuvre de ces programmes. Et en fait, d'après l'expérience que nous avons dans le domaine, plus les femmes, mais aussi les hommes, les jeunes, sont impliqués dans les programmes, meilleur est le taux de succès.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info. Retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.